Qui est là?
Bah oui.
Je vous ai pas entendu entrer.
Ah, c'est l'avantage de la moquette, par rapport au poil de vache. On n'entend rien.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Que vous soyez sur une moquette en poil de vache ou bien chez vous, bien en pleine nature, on vous salue, CO2, mon amour, l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite. Avec aujourd'hui Élodie Royer et Kevin Pelot à la technique et assisté de Sonia Leglen, c'est Christophe Imbert, oui, qui réalise l'émission. Alors avant de vous emmener en Thessalie, donc en Grèce, on l'a pas fait exprès, mais c'est vrai que Patrick Pénaud avait aussi un sujet donc sur la Grèce. Et ben là, on va poursuivre un peu ce voyage, mais très différemment. Une petite humeur. Je vais commencer en vous disant à votre santé, car c'est souvent un verre de vin à la main que l'on prononce cette phrase rituelle. Et les buveurs, ayant quelques souvenirs de latin, s'empressent même d'ajouter in vino veritas. Tant il semble que le vin, pour peu qu'on le déguste avec modération, soit paré de toutes les vertus. En ce qui concerne la vigne, c'est peut-être un peu moins vrai. Et même, on peut carrément en douter pour les vignes qui entourent, que dis-je, qui assiègent les écoles primaires du pays. C'est en tout cas ce que nous rapporte le quotidien Sud-Ouest de la semaine dernière lorsqu'il évoque l'intoxication dont furent récemment victimes une vingtaine d'enfants d'une école du Bordelais ainsi que leur institutrice. L'enseignante avait-elle pris l'initiative de lancer des travaux pratiques d'œnologie qui auraient été accomplis avec un peu trop de ferveur de la part de ces petits loups? Eh ben pas du tout. Elle a juste mis de conseiller à ses élèves de cesser de respirer tandis qu'un viticulteur local arrosait copieusement les vignes voisines de l'école à coups de fongicides. Et une tournée générale, une. Bon, le résultat n'a pas tardé. Toute trace de mildiou et d'oïdium a instantanément disparu de la peau des gamins. Oui. Dommage que des vignes ne bordaient pas un collège. On aurait sans doute pu éradiquer l'acné de tous les adolescents en même temps. L'ennui, c'est que ce traitement qui n'avait rien d'homéopathique s'est accompagné d'effets secondaires, douleurs dans la gorge, picotements, irritation des yeux, nausées, etc. Bon nombre d'enfants sont restés chez eux, malades deux jours durant. Ils ont regagné le chemin de l'école qu'en fin de semaine, à savoir quatre jours après la pulvérisation. Leur institutrice a même été brièvement hospitalisée suite à un malaise. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Avec les nouveaux rythmes scolaires, les enseignants résistent moins bien aux pesticides. Ah, c'est comme ça. La ministre de l'écologie s'est évidemment émue de cette situation, elle a eu raison, et s'est empressée de lancer un programme anti-pesticides en suggérant notamment d'éloigner les vignes des zones d'habitation. C'est pas de la tarte, hein. Pas de vignes à moins de 200 mètres des maisons. Comme ça, l'urbanisation ne tardera pas à regagner le terrain concédé par la viticulture. Ah bah oui, l'urbanisation, c'est comme la nature, ça a horreur du vide. Et l'on pourra recommencer par le processus en engrangeant au passage des revenus issus de la vente du foncier. Par contre, l'idée de convertir en bio les vignes et les vergers les plus proches des habitations ou équipements accueillant du public ne paraît pas encore dans l'air du temps. Mais sait-on jamais, la réflexion évoluera peut-être. En attendant, parents résidant dans un secteur viticole ou à proximité de vergers, songez à équiper votre enfant pour la rentrée prochaine. En plus d'un cartable tout neuf, achetez-lui donc un masque à gaz. Et d'ailleurs, avec la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, il est probable que vous pourrez en dénicher en promotion. Voilà, c'est une petite information qui nous a réjouis avec un ami Albert Houck, donc on voulait pas à tout prix vous en faire part. Et donc, oui, je vous le disais, Patrick Pénaud, c'est vraiment le hasard de la programmation, a donc consacré son émission, on l'a compris, donc à la Grèce il y a quelques instants. Mais nous aussi, on va aller en Grèce, on va essayer quand même d'en parler aussi autrement. D'ailleurs, avec vous, José Manuel Lamar. Bonjour José Manuel.
Bonjour Denis.
Alors José Manuel, vous êtes avec nous tous les matins, du lundi au vendredi, avec Allô l'Europe, et puis vous connaissez vraiment bien ce pays depuis très longtemps, vous l'aimez, vous parlez 6 ou 7 langues, je ne sais plus, vous êtes un fin connaisseur du monde grec. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter, parce qu'on est quand même dans un magazine d'environnement, et donc on va voir comment on peut allier tourisme, environnement, écologie. On va partir en Thessalie, on va vraiment vous dire où se trouve la Thessalie. On est au nord en fait d'Athènes.
C'est ça.
Et on est au sud de la Macédoine.
Et on est au sud de Thessalonique.
D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est déjà dans les Balkans ou...
Alors c'est les Balkans, hein. C'est les Balkans, la Grèce continentale, hein, se coupe un peu en deux. Le nord, c'est vraiment la continuité des Balkans. D'ailleurs, on le remarque dans la cuisine. Hein. La cuisine de Thessalonie ou la cuisine d'Athènes, c'est pas du tout la même. En Thessalonie, eh bien, on fait toujours des ragoûts, on mitonne les choux farcis. Ce qui disparaît un petit peu quand on va vers le sud. Et après, les îles, là, les îles, on est en mer Égée, mer Ionienne. C'est une cuisine, souvent une cuisine minoenne, par exemple, pour les Crétois. Mais le nord, ça reste les Balkans. Et d'ailleurs, les Thessaloniciens, on connaît les Thessaloniciens depuis Saint-Paul.
Saint-Paul, hein, oui,
voilà.
C'est ça.
Et, les Thessaloniciens vous le disent toujours, nous sommes des Balkans.
Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter Irini Karala Riotou, Karala Riotou, qui est la vice-présidente de la région de Thessalie.
Pour nous, c'est l'axe de bataille, la protection et la mise en valeur de l'environnement et de la nature. Parce que c'est aujourd'hui, justement, parce qu'il y a la crise, qu'il faut qu'on investisse dans cette protection de l'environnement, qui est la seule chose qu'on pourra valoriser par la suite et qui nous aidera à nous relever de cette crise.
Alors c'est intéressant parce que d'un côté on va avoir un tourisme de masse et là on est complètement dans autre chose. Et donc on reprend conscience aussi avec cette crise de la valeur de l'environnement.
Alors la valeur de l'environnement, de toute façon c'est la Grèce. Hein. La Grèce c'est l'environnement. Souvent quand je tente d'expliquer la Grèce, je dis toujours que la Grèce est grecque. Les Grecs sont grecs, la Grèce c'est orthodoxe et les Grecs sont orthodoxes. Voilà, il y a deux piliers fondamentaux. On est grec et on est orthodoxe. Et la Grèce c'est un pilier qui remonte à l'Antiquité. Hein. Et l'Antiquité elle vit toujours dans le quotidien des Grecs. Vous pouvez discuter avec des Grecs et tout d'un coup dans la conversation vous aurez quelqu'un qui vous dira n'oublie pas que quand Ulysse est parti d'Ithaque ou encore quand Solon arrive à Athènes, les Athéniens lui disent voilà on est au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc l'environnement fait partie de la vie des Grecs. Pourquoi ? Parce que de cet environnement ils en tirent leur vie, à commencer par l'huile d'olive. Il n'y a rien de plus important en Grèce que l'huile d'olive. Vous parlez du vin tout à l'heure, le kokinokras, le vin rouge ou le vin blanc. Voilà, tout ça, ça fait partie de la vie des Grecs et de tous les Grecs.
Alors ce que je vous propose, c'est de faire l'ascension du mont Olympe. Ça va être dans quelques instants. Oui, on s'est dit que quand même le week-end de l'ascension, grimper au mont Olympe, c'est quand même pas mal, ça avait une certaine gueule. Et on va commencer quand même en musique. Nous aurons aussi des musiques grecques au cours de cette émission. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous and he answers twice. It's really killing that he's so willing to make a whoopee. Picture a little love nest down where the roses cling. Picture the same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. And he suspected of making whoopee. She sits alone most every night. He doesn't phone her, he doesn't write. He says he's busy and she says, is he? He's making whoopee. He doesn't make much money. Judge, suppose I fail. The judge says, ha, right into jail. You'd better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. Say it's a whole lot cheaper than making whoopee. Choisi par Thierry Dupin sur France Inter, CO2 Mon Amour. Notre programmateur, Thierry Dupin, qui avait choisi Dina Washington et Quincy Jones. C'était hier, oh oui, c'était en 1956, cette chanson. Ah, une musique qui va nous emmener où cela est bien sur le mont Olympe. Donc je vous le rappelle, cette émission est consacrée à la Thessalie. La Grèce, ça fait plus de 130 000 km², la Thessalie 14 000, donc c'est 10-11% si vous voulez de la surface. On est bien au nord d'Athènes, on est loin des Cyclades, hein. On est au sud de la Macédoine et on a ce mont Olympe. Alors qu'est-ce que l'on va chercher là-haut ? Ça peut être de l'invisible, de la beauté, ça peut être un bout de soie. Et on grimpe sur le dos de la mythologie. Ouais. Alors on ne verra peut-être pas forcément les dieux qui échappent au regard des humains dans une valse de nuages. Mais peut-être qu'on ira un verre d'ambroisie à la main, rester immortel quand même. Bon, je ne sais pas si c'est le but, de toute façon de la vie, loin de là. Pour aussi nous en parler, et qui va être notre traductrice tout au long de cette émission, Isabelle Bouchy, nous sommes sur le mont Olympe. Allez, encore quelques efforts. On n'est pas arrivé hein, quand même, Isabelle, parce que ce mont Olympe, en fait, c'est un massif qui représente quoi en kilomètres carrés ?
Environ 80. Ouais, l'approche est lente.
Et alors, les dieux nous attendent, parce que c'est quand même la résidence des dieux ici, c'est ce que nous disait Homère.
C'est le palais de Zeus. Hein. Voilà. Zeus et ses enfants. Ouais. Donc. Il faut le mériter, il y a une approche très lente. Et puis tu vois devant la cime du Mythikas.
Alors ça c'est le plus haut sommet, hein, le Mythikas.
Le plus haut sommet, c'est oui, c'est là qu'étaient Zeus.
Voilà. C'est pour ça qu'on parle du trône de Zeus. D'ailleurs, on peut imaginer pratiquement là qui déposait ses fesses et puis ses grands bras qui enroulaient la montagne.
Oui, qui l'a fait écrouler une grande paroi qui nous fait très peur là, parce que c'est très raide quand même.
Hein. Ouais.
Ah ouais. Ah ouais, c'est quand même très vertigineux quand on est là-haut.
Alors on a traversé quand même un certain nombre de forêts. Ce qui est très intéressant aussi dans ce mont Olympe, c'est qu'il y a donc une des influences climatiques diverses, celle de la Méditerranée, celle de l'Afrique du Nord.
Celle des Balkans,
celle
sûrement.
Celle des Balkans, bien sûrement. Sûr. Oui, oui. Et donc ça donne aussi une flore...
Très riche, très diversifiée. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on est un peu novice ici, hein, on voit que des prairies sèches où grignotent... les chèvres sauvages, mais en fait c'est plein de plantes endémiques ici,
ouais.
Environ plus de 1000.
Ah oui.
Donc c'est quand même très important pour la Grèce, c'est un patrimoine, à part sa mythologie, c'est un grand patrimoine naturel.
Alors en fait, pourquoi est-ce que ces dieux sont venus ici, sur l'Olympe ? Parce qu'ils étaient tranquilles, ils pouvaient batifoler comme ils voulaient.
Ah ouais, c'était la montagne la plus haute, et puis sa tête était toujours dans les nuages.
Ouais, c'est ça.
Et ben, c'est sûr que le commun des mortels était un peu effrayé de monter là-haut.
Ouais.
Hein, je crois que personne n'y est monté avant le 18e siècle. Hein.
Alors on avait le dieu des bois qui était Pan, le fameux Pan. Alors lui, il a été plutôt sympa parce qu'en fait, il a drapé, on va dire, le mont Olympe jusqu'à quoi ? À peu près 2000 mètres, oui, c'est ça, de forêt.
Oui.
Et puis il y avait Artémise aussi qui était bien, qui était déesse de la nature.
Alors les forêts, il faut quand même dire qu'elles sont plutôt du côté de la mer Égée.
Oui, hein,
c'est plutôt sous l'influence de la mer. Beaucoup plus boisé l'autre côté, le côté par lequel on est arrivé nous. Il y a des forêts en bas et puis ici, c'est comme tu vois, c'est des pelouses, hein.
Ça rappelle même parfois un peu le Ladakh, quoi, on pourrait se dire. On est à 5000 mètres d'altitude,
oui.
Bon, on est beaucoup moins haut, bien sûr. Mais...
Est-ce que j'ai entendu les chèvres sauvages qui sifflaient ?
Ah oui, c'est vrai.
Ça, c'est
c'était
fabuleux.
Ça, parce qu'on se dit que c'est des marmottes. Bah, pas du tout.
Pas du tout, il n'y a pas de marmottes ici.
Non.
Mais les chèvres sauvages, il y a toujours un gardien en avant du troupeau et qui avertit les autres.
Ouais.
Et bien que on les a vus quand même de très près, ils n'ont plus peur parce qu'en fait, il n'y a plus de chasseurs ici.
Ouais.
Contrairement il y a quelques années où ils chassaient encore la chèvre sauvage, les montagnards disent que du fait de la fréquentation, et puis ils sont en alerte maintenant, donc il n'y a plus de chasseurs, donc les chèvres n'ont plus peur, donc elles ne s'éloignent pas beaucoup.
Ouais. Bah tiens, il y en a encore 3 ou 4 là, oui effectivement. On va préciser à celles et ceux qui veulent le faire qu'ils ont intérêt à emporter de l'eau parce qu'on ne va pas trouver beaucoup de sources.
Hein, non, pas du tout. Du tout.
Massif calcaire.
Et tu vois, les chèvres sauvages, elles vont sur les nappes de neige hein, pour, ouais, pour boire. Hein.
Elles vont sur les névés, là.
Ouais.
Et puis alors, dans le ciel, ça c'est toujours un spectacle de toute beauté. Là, c'est pas des vautours, mais c'est des gypaètes barbus.
Oui. Il y en a plein dans la vallée du Tembi, de l'autre côté. Et le monde, bien sûr, nidifié jusqu'ici. Et puis, tu vois, ces brumes qui montent, c'est quand même fabuleux, quoi.
Et là, on pourrait presque se dire, en regardant ces nuages...
C'est la marmite de Zeus qui est en train de bouillir.
Et voilà.
Hein, c'est vraiment ça.
C'est ça. Enfin, c'est le patron, hein, quand même,
bah,
Zeus.
Oui, c'est le oui. chef. Hein.
C'est quand même lui. Voilà. Et puis, il y en a peut-être un qui déclenche l'orage, hein, c'est le maître du feu.
Oui, on a Héphaïstos.
En fait, on en a 12. Hein,
on en a 12.
Bon.
Après, il y a une quantité d'autres petits dieux. Hein.
Oui, qui sont venus se greffer. Enfin,
voilà.
Et parmi les 12, d'ailleurs, il y a Poséidon, le dieu de la mer.
En fait, oui.
Il est...
oui.
Mais il est quand même. C'est aussi un montagnard, Poséidon. Hein.
Ah ben, il faisait des petits séjours en montagne, mais voilà. La plupart du temps, il est au fond des mers, c'est vrai.
Ici, on peut rencontrer donc des dieux, ce qui est déjà pas mal. Et puis, si on rencontre d'autres. Alors, des mammifères, que va-t-on rencontrer?
Parmi les plus spectaculaires, puis ceux dont tu voudrais entendre parler, c'est les loups, mais
oui.
Ils sont un peu plus bas, tu vois. Ils sont dans la forêt, ils sont en dessous de 1500 mètres.
Je pense qu'ils m'ont mangé ici. Hein, donc,
il n'y a pas d'ours, hein, il faut savoir, les ours sont dans le Pinde uniquement, en Grèce.
À quel endroit?
Dans le Pinde, dans la chaîne du Pinde, qui traverse la Grèce du nord au sud.
D'accord.
Vous avez des chèvres? Et environ 600 chèvres. Et il a deux enfants qui s'occupent des chèvres. Sans les siens, on ne peut pas vivre.
Ils sont indemnisés. Combien il y en a qui partent tous les ans?
Ça dépend des années, on ne peut pas dire, mais si on n'est pas à côté, en deux heures, une meute de loups peut décimer le troupeau. Ils ne les mangent pas, hein. Ils les tuent et ils prennent un croc ici, un croc là. Et ils dorment ici à côté, ils ne les laissent pas tout seuls.
Alors là, Isabelle, on voit la mer Égée.
La mer Égée, oui,
ah ouais.
À perte de vue. Le mont Athos en face.
Ouais.
Tu vois, la Chalcédie. C'est vrai que c'est un point de vue extraordinaire.
Alors c'est quand même un massif quoi, qui attire la pluie malgré tout. Parce que...
Écoute, il attire la pluie sur son côté maritime.
Oui.
Et puis les nuages restent presque en permanence sur son sommet. Et l'autre côté, l'autre versant, tu vois, est beaucoup plus sec.
Oui.
Et c'est le versant des éleveurs, hein. C'est ici que sont concentrés quand même je sais pas le pourcentage, mais les troupeaux grecs, chèvres et moutons, c'est ici que tu les trouves. Hein.
Bon, et c'est bien pour ça qu'on va aller fêter la feta dans quelques instants.
C'est ça, hein. On va aller rencontrer un producteur.
Allez, on y va.
Petit retour quand même ici dans les studios de France Inter avec CO2 Mon Amour et vous José Manuel Lamarque. Donc ce rapport aux dieux, vous le disiez, est évident. Enfin, on porte ça depuis son enfance.
On porte ça comme la nature. Puis bon, les dieux ne sont pas arrivés sur l'Olympe. Hein, ce sont les dieux aussi qui ont fait l'Olympe, puisque de toute façon, toute notre culture européenne, le berceau de notre culture européenne, c'est la Grèce, qu'on le veuille ou non. Nous sommes des Grecs sans le savoir. Et d'ailleurs, nous parlons grec sans le savoir. Quand vous parlez grec, eh bien, vous apercevez qu'il y a tellement d'expressions et de mots grecs que l'on va retrouver dans nos langues, dans la langue française. C'est peut-être la raison pour laquelle les plus grands philhellènes, les plus grands hellénistes sont français. parce que automatiquement ce sont deux langues sœurs. Et puis Europe, hein, Europa, Europe, elle est née en Grèce, hein, elle est née en Crète. Hein, c'était Zeus qui s'était bien sûr occupé d'elle, bien évidemment. Donc voilà, toute cette Grèce aujourd'hui méconnue à cause de la crise. On a dit tellement d'horreurs sur la Grèce et sur les Grecs. Moi, je les défends tous les jours. Eh bien, cette Grèce, c'est notre berceau, qu'on le veuille ou non. Vous avez vu ces magnifiques paysages sur le mont Olympe, puis tout d'un coup, vous dites, ah ben là-bas, on voit la Chalcidie, ouais. c'est-à-dire ces presqu'îles qui sont sur la mer Égée. On va retrouver, bien sûr, le mont Athos. Pour ceux qui veulent un peu plus d'infos, par exemple, vous avez un livre fabuleux qui est le livre d'Alain Durel, L'archipel des saints, qui vient de sortir chez Albin Michel. Et comme vous êtes dans cette Grèce balkanique, il y a l'histoire de la Grèce et des Balkans d'Olivier Delorme, trois tomes extraordinaires qui sont sortis chez Folio. Et vous voyez, ce sont des Français qui écrivent sur la Grèce. C'est pas anodin, c'est pas pour rien, parce qu'on y trouve nos racines. Et puis, sur ce mot Olympe aussi, peut-être, je pense que vous allez nous faire découvrir à un moment, après la fête, à peut-être le miel, parce que vous savez, la fête a le miel, l'huile d'olive, tout ce qui vient de la terre, ouais. En Grèce, tout est lié, tout ce qui vient des arbres, tout est lié. Et quand on mange un plat de horta, c'est une variante d'épinard, il y a 1000 horta en Grèce, la horta c'est tous les jours, comme le miel d'ailleurs.
Et alors on va prendre de la feta aussi, hein, le berceau de la feta, c'est quand même la Grèce.
Ah mais c'est la Grèce, hein,
oui.
C'est tout. Hein.
Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le département de la Lozère partage des choses communes avec la Thessalie. Donc ils se sont jumelés. Et là, on va retrouver un homme qui s'appelle Pierre Spirito, qui a été le développeur touristique, un des grands développeurs touristiques de la Lozère, avec le maire de la province de la Sonia, qui est la capitale donc, de la Feta. Et vous allez voir comment s'est jumelé en fait ce département de la Lozère avec la Thessalie. Et c'est parti sur un malentendu sur la Feta.
Alors déjà, il faut dire que cette coopération, elle est sous le signe de la coopération du programme LEADER, hein, programme européen. Effectivement, en 2005, la Lozère et la Grèce étaient un petit peu en concurrence parce que nous avions aussi de la production de feta en Lozère. Et nos amis grecs avaient parfaitement raison d'exiger que la feta soit une appellation protégée par la Grèce. Ouais. Et donc la Lozère en a tout à fait convenu. Mais pour éviter ce climat un petit peu tendu avec la Grèce, nous avons recherché un partenaire grec pour dire finalement nous avons beaucoup de choses à partager au niveau de l'arc méditerranéen et en particulier au niveau du pastoralisme, le fromage de brebis. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons recherché un partenaire et nous avons trouvé cet excellent partenaire de Thessalie.
Alors ça s'est arrangé parce qu'en fait vous avez bien sûr changé de nom. Que représente la feta donc ici dans cette commune où nous sommes à Elissonia?
Να σας πω, ο στόχος μας, το τι αντιπροσωπεύει ας πούμε, η φέτα της Ελασσόνας.
La feta είναι ici, πραγματικά qu'est-ce que c'est? C'est 380 000 brebis et chèvres, 15% de la production de feta de la Grèce et une qualité remarquable.
Έχει να κάνει με τις φυλές των ζώων μας, που είναι ντόπιες φυλές των ζώων, και έχει να κάνει, ας πούμε, λοιπόν, με τα φετά της περιοχής.
Les races de nos brebis sont locales et ce sont les herbes de nos prairies qui sont absolument uniques. Voilà, c'est ça la qualité de nos produits.
D'accord. Alors là, j'aborde un autre sujet, mais qui va quand même rejoindre la feta. On sait que la production énergétique en Grèce repose sur le fuel, repose sur le gaz et aussi sur le charbon. Il se trouve que, pas loin de chez vous, il y a la possibilité d'ouvrir une mine de lignite et de charbon. Pour vous, j'imagine bien que ça doit quand même être un choc assez effrayant. Donc, comment on s'organise et quel va être l'avenir?
Μου κάνει φοβερή εντύπωση που πραγματικά σου έχει πληροφορηθεί ότι υπάρχει ένα πόθημα στην περιοχή.
Alors d'abord, il était très impressionné que vous connaissiez l'existence de cette
ce projet d'ouverture
concernant la lignite. Et il dit mais là, il faut que je vous signale que nous avons une réaction pour une fois, nous Grecs, tous unis contre ce projet. Pour deux raisons, parce que d'abord, nous avons à protéger ce monument de la nature qui est le mont Olympe, qui représente pour nous un cadre laissé par nos ancêtres et que nous devons léguer à nos enfants. Et d'autre part, comme je vous l'ai dit, nos produits de qualité sont très liés à la qualité de l'environnement, des herbes. Et pour défendre, nos producteurs se sont regroupés afin de défendre l'origine de ces viandes AOC reconnues contre ce projet. Donc nous disons non.
Est-ce que l'Église orthodoxe est allée dans le même sens aussi ?
Είμαστε ένα σώμα, μια ψυχή.
Ils sont un seul corps avec l'Église.
Λοιπόν, επειδή οι περιοχές μου έχει διάθεση ξεχωριστή Μητρόπολη.
Il n'y a pas eu de discussion là-dessus. On est complètement unis. La province de la Sonne possède son Église, un Métropolite. Et nous sommes tout à fait en accord avec le Métropolite pour protéger notre monument naturel qu'est le Mont Olympe.
Alors protection donc assez importante, mais il faut évidemment combattre et résister parce que l'énergie en Grèce, bah, c'est 60% du pétrole et du charbon, 20% du gaz, donc c'est vite vu, 80% d'énergie fossile. Après, bon, vous n'avez pas de nucléaire parce qu'on est quand même sur une zone sismique. Bon, ça, c'est, ils ont dit non, paraît raisonnable. Et puis, énergie renouvelable, pas mal d'hydraulique, de la petite hydraulique d'ailleurs, et puis du solaire, éolien, et qui sont en plein développement. Si, une petite chose quand même, José Emmanuel, juste rappeler quand même, parce que bon, on a notre feta, nous, on va dire, qui ne s'appelle plus la feta, donc en France, parce que le terme feta, c'est vraiment
non,
pour
c'est
la
grec,
Grèce.
C'est vraiment c'est une grec. Protection européenne.
Mais nous, on fait ça avec 100% de lait de brebis, tandis que eux, la vraie recette, c'est 70% de brebis et 30% de lait de chèvre.
Voilà, exactement. Et puis la feta, vous la mangez tout ce que vous voulez. Vous pouvez même la faire au four dans un plat turc qui s'appelle l'imam baylde, ou encore la fameuse salade grecque, comme vous voulez, ou encore trempée dans du miel. Mais ce qui est important sur l'énergie, là, vous voyez, la Grèce Grèce est orthodoxe. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui se bat pour la Grèce. Ce ne sont pas seulement les Grecs et l'Église à côté, c'est tout le monde qui veut sauver le pays. Parce que bien évidemment, il y a le reste de la planète qui veut mettre la main sur la Grèce, entre autres l'Allemagne, qui Dieu sait qu'elle a fait du mal à la Grèce pendant la Seconde Guerre mondiale et elle en continue à en faire pendant cette crise. Eh bien, les Grecs sont mobilisés pour sauver leur pays. On a des mines d'or, il faut sauver aussi la Grèce par rapport aux imprécateurs qui veulent prendre les mines d'or. On a trouvé aussi des gisements de pétrole, des gisements de gaz. Alors on peut gérer ça, mais en accord avec les Grecs. Et là, vous voyez, l'Église orthodoxe est très importante. Le métropolite, donc un haut dignitaire de la région, de Thessalie, est avec tout le monde. Et c'est tout simplement, jeudi dernier, les orthodoxes fêtaient comme les catholiques, c'était la transfiguration, c'est le tis analypseos. Voilà. Il faut savoir que l'orthodoxie chez les Grecs, c'est au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle il y a un lien entre l'Église orthodoxe et le peuple grec.
Alors, nous reviendrons sur ce sujet aussi, parce que j'ai rencontré aussi un pope tout à l'heure. Ce que je vous propose d'abord, c'est de rencontrer Vassili Lestios, qui est le maire adjoint de Agia. Donc, nous sommes toujours en Thessalie. Et puis là, on va voir avec lui comment on s'appuie sur l'environnement pour se développer.
Il y a 10 ans, c'est vrai, ça nous paraissait complètement exotique de voir quelqu'un qui vient ici simplement pour marcher dans notre région. On ne voyait pas pourquoi. Parce que parallèlement à ça, il y avait des zones de développement du tourisme massif en Grèce qui étaient complètement dans une autre direction. Aujourd'hui, je crois que tous nous avons compris que la valeur de notre territoire, c'est sa nature. D'ailleurs, n'oublions pas que les dieux l'ont choisi quand même pour s'asseoir sur l'Olympe. Et donc, on en a pris tous conscience et maintenant, on est très heureux de voir des gens qui viennent simplement admirer notre nature.
Alors, ce pays est superbe. Il y a quand même une chose qui est choquante. Cela dit, c'est valable pour beaucoup de pays méditerranéens et même d'ailleurs aussi en France. C'est quand même l'accumulation d'un certain nombre de déchets. Qu'est-ce que l'on peut faire? Quelle politique vous menez?
Nous, on a décidé qu'il fallait s'adresser aux jeunes enfants, parce qu'il était professeur, M. Lettius. Donc, il dit, moi et mes collègues de la mairie, on a pensé qu'il fallait faire un programme d'éducation civique, comme il y a un programme d'éducation routière dans les écoles primaires. On va faire un programme d'éducation civique où on apprendra aux enfants comment se comporter par rapport aux déchets. Et que c'est la seule solution pour moi. L'avenir, c'est les enfants. C'est eux qui doivent passer ce message-là à leurs concitoyens.
Vasilis Letsios. C'est intéressant là, ce qu'il vient de dire. En gros, les personnes quand même âgées, les vieux, ou bien ils renoncent, c'est pas la peine, mais ils mettent le paquet sur les jeunes.
Sur les jeunes, parce que de toute façon, il n'y a pas de différence en Grèce entre les jeunes et les vieux. Tout le monde vit ensemble, et même si on ne connaît pas le vieil homme ou la vieille dame qui est sur le bord de la route ou assise sur sa chaise dans la rue, on va l'appeler au babouche, à Yaya. Yaya, c'est grand-mère en grec, hein, au Yaya. On va toujours parler au Yaya, c'est normal. Et puis, par rapport au tourisme, là, ce qu'a dit le maire, mais c'est très important. Vous savez, je pense que la première des pollutions au monde, c'est le tourisme de masse. Et puis, il y a un combat en Grèce contre le all-inclusive. Vous savez, quand on rentre dans une espèce de camp de concentration qu'on appelle un hôtel, on n'en sort jamais pendant une semaine. Mais il y a tout un combat en Grèce pour le tourisme artisanal, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le tourisme en Grèce avec les petites pensions de famille, les petits hôtels, les petits magasins, les petites pensions. Et puis aussi les petites tavernes, les petits restaurants en campagne. Il y a aussi, contre le all-inclusive, il faut dire aussi, il y a un vrai tourisme en Grèce, artisanal.
Alors nous allons rejoindre toujours au bord de cette mer Égée qui est superbe, Isabelle Bouchy, notre traductrice, qui est au départ biologiste de formation et qui a fait de l'écologie appliquée à l'aménagement du territoire et qui nous parle peut-être des améliorations environnementales qu'elle a vues au cours de ces différentes années.
Moi, j'ai vu directement une amélioration au niveau de l'éducation à l'environnement. Depuis les 25 ans que je suis ici, il y a vraiment une révolution au niveau de l'éducation. Je pense que les enfants sont bien mieux éduqués que leurs parents. L'autre chose que j'ai vu de mes yeux s'améliorer énormément, c'est la qualité de l'eau de mer sur les côtes d'Athènes, hein, grâce à l'épuration, à la centrale d'épuration qui a été faite des eaux. Et également la pollution atmosphérique qui était le problème numéro un quand je suis arrivée. Grâce à un certain nombre de mesures, dont effectivement le changement de qualité de l'essence, l'amélioration du parc automobile.
L'arrivée du métro aussi avec les Jeux Olympiques.
L'arrivée du métro. Oui. Et puis dernièrement, et malheureusement à cause de la crise, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins de gens qui circulent. Et bon, la pollution s'est considérablement réduite.
Parce qu'on a tous vu donc, ces articles sur l'acropole qui était minée, qui était rongée aussi par la pollution atmosphérique.
Oui, ça ne veut pas dire que tout est fini de ce côté-là. Hein. Oui. Il y a encore un long chemin. Mais c'est vrai, et l'aéroport aussi qui est parti en dehors de l'agglomération, ça a été aussi une amélioration certaine.
Oui. Alors je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'incendies, on ne souhaite pas, donc cette année en Grèce, mais où en est-on de ce côté-là?
Bah écoutez, les incendies en Grèce, comme dans pas mal de pays méditerranéens, c'est toujours une manière de résoudre les conflits d'aménagement du territoire de façon très violente. Ouais. Et bon, ça a toujours cours. Hein. La variation dépend plutôt des conditions climatologiques qu'autre chose.
Oui. Non, c'est-à-dire que si on veut construire quelque part, éventuellement, un bon petit coup d'incendie,
Et non seulement au niveau privé, mais au niveau public aussi. Parfois, quand on veut faire passer une autoroute, on résout le conflit des pouvoirs publics entre eux de cette manière-là.
D'accord. Bon. Alors, vous l'entendez, nous sommes là au bord de la mer. On peut ramasser aussi quelques algues et d'ailleurs les assaisonner très très bien. Hein. Donc on a un rapport direct là aussi avec le monde végétal. Et puis on a la plaine et puis on a la montagne qui est juste derrière. On fait de la cueillette?
Alors les Grecs sont très friands de toutes les herbes sauvages. On en a à peu près 80 espèces comestibles qui sont ramassées. Donc ce que vous en France vous appelez les pissenlits, voilà, on en a encore 79 espèces comestibles ramassées un petit peu partout selon les saisons et selon l'altitude, y compris dans les rochers de bord de mer comme ici, effectivement, le crithamon. Et certaines sont simplement bouillies 5 minutes et assaisonnées à l'huile d'olive et au citron et considérées comme extrêmement dépuratives. Et les autres, comme celle-ci des rochers qui sont plus des plantes un peu plus grasses, sont préparées comme les cornichons.
Mais ça veut dire qu'on a un rapport quand même très, très direct. C'est-à-dire le Grec, quand il sort faire une balade, éventuellement, il a son sac.
À chaque excursion, tout Grec de tout âge a son petit sac et son petit topidèle pour ramasser des herbes. Oui, on ne va pas faire un pique-nique ou une excursion dans la nature sans ramasser son petit sac d'herbes. Ça fait partie de la petite potion de santé.
Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, όπου κι αν πάω σ' έχω πάντα στην καρδιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου στο λέω και καπιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου στο λέω και καπιέμαι. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Θεσσαλονίκη, μετά τόσα σου μεράκια βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδυ για βοέμικα τραγούδια στα σοκάκια, σε νύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Είσαι πατρίδα μου στο λέω και καπιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου στο λέω και καπιέμαι. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Θεσσαλονίκη μου, κι αν είμαι μακριά σου, πάντα θυμάμαι το όνομα σου το γλυκό. Αχ, πως νοστάλγησα να ξαναρθώ κοντά σου κι ας ξεψυχήσω μπρος στον πύργο το λευκό. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου στο λέω και καπιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου στο λέω και καπιέμαι. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι.
Ah voilà, bah, écoutez, de la musique grecque et qui doit faire plaisir aussi à des Grecs qui nous écoutent, José Manuel Lamarque.
Oui, et que... d'abord aux Thessaloniciens, puis à tous les Grecs qu'on a entendu à Rivetico. Bien sûr, Saglikeria qui chantait, c'est une très très grande chanteuse grecque de Rivetico qui a un succès dans tout le bassin méditerranéen. Elle fait même des concerts en Israël. Vous vous rendez compte, les Israéliens sont fous d'elle et elle chante en grec, elle est grecque. Et là, bah, c'était un grand souvenir de Thessalonique, Thessaloniki, dans cette chanson qui est une ville légendaire pour les Grecs. Alors Athènes, on sait que c'est l'Athènes de l'Antiquité, mais Salonique, c'est la ville, vous voyez, je le dis aussi à l'ancienne, Salonique, c'est la ville du 19e siècle, c'est la ville de Rebetiko. Cette musique avant, qui était un peu comparée au tango, la musique des voyous, des mauvais garçons,
oui,
vous savez,
oui,
et qui venait d'Istanbul. Et puis Thessalonique, c'est aussi cette ville où, il faut le dire, hein, où est né aussi Mustafa Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne. Et Salonique qui a connu, hélas, disparu, massacré, décimé, là, une très grande communauté juive qui était des ladinos qui venaient d'Espagne et du Portugal, massacré par les troupes allemandes et nazies. Tous les Thessaloniciens, tous les Grecs se souviennent de cette communauté qui a été vraiment un des plus grands crimes qu'on en a connu en Grèce.
Alors on va revenir du côté de Larissa. Larissa, donc je vous le rappelle, hein, c'est un peu la capitale de la province de la Thessalie. On va y être à peu près une quarantaine de kilomètres. On rejoint la mer Égée, on va aller vers Karitsa. Et là, on va rencontrer un prêtre orthodoxe, un pope, qui est aussi apiculteur, qui s'appelle Nectarius Drossos. Très joli nom, Nectarius Drossos. Et avec lui, et toujours avec l'aide d'Isabelle Bouchy, parce que moi, mon grec est un petit peu léger, qui va nous parler du message de la nature. Qu'est-ce qu'il porte? Quel est le message de la nature pour lui, pour Nectarius Drossos?
Εδώ, εγώ συναντάω μια δυσκολία, γιατί αυτό που με κράτησε...
C'est la nature qui m'a retenu ici. C'est cette proximité de la mer et de la montagne qui m'a séduit. Bon, je suis davantage de la mer puisque de provenance d'Amorgos, mais c'est cette combinaison des deux qui m'a séduit. Mais les gens ici, comme je vous ai dit, sont trop riches. Donc, dans leur culture, ils mettent trop d'engrais, de pesticides, et c'est une vraie catastrophe pour la nature. Donc, ils détruisent ce que moi j'aime. Ici, le cancer a fait des ravages chez les agriculteurs eux-mêmes.
Alors vous-même, en tant qu'apiculteur, puisque vous voyez plein de jeunes qui sont en train de s'installer, Que constatez-vous au niveau des ruches? Est-ce que les abeilles se portent bien?
L'apiculteur se porte bien ici. Il y a peu de maladies, comme je vous ai dit. Il y a juste, on fait 3 traitements un peu préventifs, en particulier sur l'acarien, mais pas grand-chose. Par contre, mon problème, c'est comme je vous ai dit avec les pesticides et les fertilisants, je peux pas du tout transporter mes ruches à proximité du coton, du tournesol. Parce que avec les produits qu'ils jettent dessus, mon miel serait particulièrement mauvais.
Il y a
toutes ces graines génétiquement modifiées, oui, avaient été interdites, mais comme il y en a encore des hangars entiers, ils les utilisent et elles sont, elles ont été modifiées de façon à ce que les insectes n'approchent pas. Voilà. Et donc c'est ça que je veux éviter.
Quel est le message de la nature que vous recevez en tant que en tant qu'orthodoxe?
Qu'on soit chrétien, orthodoxe ou catholique ou protestant, ça n'a pas d'importance. La nature doit... Si on connaît l'origine du monde, l'origine de la création, il faut évidemment respecter la nature. Et j'essaye de passer le message à tous ceux qui sont autour de moi, de respect. Et je considère, pas moi seulement, et dit nous tous les prêtres, que la dégradation de l'environnement, les nuisances qu'on peut procurer sur la nature, sont des péchés aussi graves que l'assassinat, le vol, etc. Ils sont, et il dit, moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le patriarche, voilà, les mots du patriarche.
Et juste pour terminer aussi, quel message il y a derrière les abeilles?
Chaque fois que j'ouvre une ruche, d'abord mes abeilles me reconnaissent à mon odeur, etc. Donc déjà ça c'est fascinant. Et puis il dit c'est un microcosme en harmonie parfaite. Tout est en ordre, tout est en harmonie, tout est hiérarchisé, il y a des règles. C'est une mini-société qui fonctionne admirablement bien. Et il dit c'est ça qui me fascine.
Voilà ce que vous disiez, José Manuel Lamarque, donc l'olive, le miel.
Le miel, bien sûr, le miel. En grec, vous savez, on dit « sega sega yagorina niente meli ». Ça veut dire « plus tu prends ton temps, plus tu vas transformer l'amertume en miel, en douceur ».
Alors, la notion du temps est très importante. Le
chronos,
temps ne compte
chronos,
pas.
Chronos, dieu grec. Hein. Le temps, l'environnement, le temps, on prend son temps. Ben oui, mais il faut pas oublier qu'on aussi, on est dans un pays où l'été, il fait très très chaud, comme tous les pays chauds de la Méditerranée. Les Méditerranéens, je le dis à tout le monde, ce ne sont pas des fainéants. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui souvent travaillent avant tout le monde, mais vers 7h du matin, et après, ils terminent vers 22h. On n'est pas fainéant en Méditerranée, mais seulement quand il fait chaud, c'est difficile, il faut s'arranger. Mais on s'arrange intelligemment pour avoir le même nombre d'heures de travail. Quant au pop que l'on a entendu, Denis, bah, l'orthodoxie, elle est pleine et entière en Grèce. Parce que d'abord, la Grèce était orthodoxe. Et puis après, c'est Saint-Cyril et Saint-Méthode qui sont partis évangéliser d'autres peuples. Il faut pas oublier que de 1453 à la chute de Constantinople jusqu'à 1830, l'indépendance de la Grèce, eh bien la Grèce a connu l'occupation ottomane. Et qui a sauvé la langue grecque? Qui a sauvé la culture grecque?
Les orthodoxes avec des écoles
les
secrètes.
Popes, les popes, aussi, oui. Les popes, bien sûr, sont les popes qui ont fait l'école. Et on a sauvé les icônes, on a sauvé la racine grecque qui est la langue et la culture grâce aux popes qui, pendant tous ces siècles d'occupation, ont sauvé l'âme grecque.
Je vous propose maintenant de rester non loin de celui où nous étions, donc toujours sur la côte, en Thessalie. On va rentrer un tout petit peu dans les terres pour rencontrer Nikos Dagas, qui dirige Olympus Adventure et qui est un homme bon, qui s'intéresse à cet environnement de très près. On est dans une zone humide assez belle, qui est l'estuaire du Pigno. Donc c'est un fleuve. On est à côté de Velika. Et donc, pourquoi protéger ce lieu? Ça va de soi, mais c'est quand même mieux en écoutant Nikos Dagas qui nous parle de cet estuaire du Pigno.
Cette forêt que je vois propre, ce fleuve que je vois couler limpide, ce rivage, je souhaite le donner tel que à mes enfants.
Qu'est-ce qui est exceptionnel ici dans cet estuaire? Donc on a deux rivières en fait qui coulent et qui se rejoignent, qui descendent peut-être de l'Olympe, hein, me semble-t-il.
Είναι ένα ποτάμι το οποίο έρχεται από 220 χιλιόμετρα μακριά.
D'abord, ce fleuve qui vient de 220 km au loin, c'est un des plus grands fleuves de Grèce qui a, comme vous voyez sur ses berges, un bois extrêmement riche en variétés végétales et animales. Et comme je l'ai déjà dit, je souhaite d'abord le protéger pour qu'il soit en l'état pour mes enfants, mais aussi, il faut que je parle en tant que professionnel, on n'est pas que des écologistes, c'est mon capital de travail. C'est ça que je veux montrer aux gens qui viennent visiter chez nous, c'est ça que je veux mettre en valeur dans les activités nature que je fais. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de descendre ce fleuve en canot, hein, entendre le bruit des oiseaux, déranger un couple de hérons, arriver sur une plage déserte battue par les vagues sur laquelle je peux me baigner librement. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça?
Υπάρχουν τα απόβλητα δυστυχώς της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι η κύρια απασχόληση της Θεσσαλίας.
Pour nous, c'est notre capital de vie et de travail. On est obligé de faire sans arrêt des mesures, de surveiller. Donc on envoie des analyses régulièrement au service d'analyse chimique de l'État. Et donc on surveille et on fait des interventions au niveau essentiellement de l'agriculture parce que c'est elle qui est la grande responsable des pollutions dans la plaine de Thessalie.
Alors Isabelle Bouchy, ici, donc, on voit un certain nombre de cabanes. C'est vraiment fichu de briques et de brocs. C'est très joli en même temps. Alors ce sont des constructions, évidemment, on va dire, qui sont un petit peu sauvages. Qui s'implante là et symboliquement, qu'est-ce que représente ce territoire?
Ici, il y a un problème qui est un problème grand. Ces escalibres, ils ont fait des gens qui aiment le environnement.
Il y a deux problèmes en fait sur cette construction et c'est très intéressant parce que les gens qui viennent ici sont des gens qui aiment la nature d'abord. Ou c'est des locaux qui viennent et qui vont utiliser les déchets amenés par le fleuve, tu vois, du bois, des tôles, un peu de tout et qui ont construit avec ces matériaux-là. Donc d'une certaine manière, ils ont nettoyé et ils ont recyclé, complètement recyclé en faisant ces petites constructions de briques et de brocs. Alors d'un autre côté, ils entrent l'environnement. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Ils n'ont aucun droit. Ce terrain est public, ne les appartient pas. Donc ils circulent librement. Comment on peut couvrir ça de façon légale?
C'est pas possible.
Mais par contre,
c'est un territoire de liberté.
C'est des gens qui protègent l'environnement. D'accord. En toute illégalité.
Non, mais on sent surtout un sentiment de liberté incroyable. C'est-à-dire qu'éventuellement, moi, si j'ai envie de dormir tout seul dans une de ces cabanes, je peux le faire.
Oui. Puisque ces cabanes n'ont pas, enfin, puisque l'espace appartient à tous,
ouais.
Ces cabanes ont été construites par quelqu'un, mais tu peux effectivement ce soir décider de rester dormir dans l'une de celles-ci. Ouais. Et personne ne te dira rien. Il y a un grand respect de ces gens les uns par rapport aux autres.
Nikos Dagas, je vous l'ai pas dit, il est aussi le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie donc de Larissa, toujours en Thessalie. Et là, on va rejoindre un autre beau personnage qui s'appelle Georgios Boutos. Et Georgios Boutos, c'est au départ, c'est un paysan, c'est un agriculteur, c'est une famille de paysans. On est à Karitsa. Et il a acheté une friche, il a acheté un lieu, il a construit son hôtel dessus. C'était un rêve de gamin. Et ce qui est très intéressant avec Georgios Boutos, c'est qu'il nous parle de son rapport, de son beau rapport à la nature et au vivant.
Νομίζω ότι όταν ακουμπάς το χώμα, έτσι, το έχεις ανάγκη να υπάρχει στην επόμενη κίνηση την οποία θα κάνεις.
Le travail de la terre, c'était le contact avec la terre, t'apprend d'abord, tu gardes un grand calme, et d'autre part, t'apprends à être face à toi-même. Ça, c'est mon rapport à la nature. Et ça, c'est quelque chose que j'ai conservé ici. μέσα στη φύση. Dans cet espace.
Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να το κάνουμε αυτό.
C'est évident qu'on ne peut pas, aucun objectif à dominer l'espace. Cet espace, il ne nous appartient pas. Il faut l'entretenir tel qu'il est. Et il n'y a qu'à regarder les arbres qui sont ici autour de nous. Ce que j'aime, c'est mon rapport à la nature, c'est aussi tout ce que je sais créer de mes mains, à partir des éléments de la nature. Et bien que je ne sache pas d'où ça vient, je sais que je peux le transmettre aux autres. Donc ça, c'est un grand bonheur.
S'il était un arbre.
Θα ήθελα να αλλάζω, να μην είμαι ένα δέντρο, γιατί και σαν άνθρωπο θέλω να αλλάζω. Θέλω να προχωράω. Θέλω να ξεκινήσω από χαμηλά για να φτάνω.
Je ne veux pas être un arbre, parce que je voudrais changer. Je voudrais être plusieurs arbres. Et même en tant qu'homme, je veux changer tout le temps. Je veux démarrer de bas, monter, redescendre. Et j'aime par exemple le tilleul, qui est là au-dessus de nous, ces grands arbres. Et j'aime les arbres qui sont en général aromatiques, comme ça.
Et parmi toutes les plantes.
Για τα φυτά. Ο Κίσοφος έχει 2.400 είδη δέντρων και θάμνων. Νιώθω πολύ όμορφα γιατί βρίσκω...
Ο Κίσοφος a 2.400 espèces de plantes différentes et je ne souhaite pas en choisir une. Moi, j'aime l'ensemble de toutes ces plantes. Pareil pour la société humaine. Je ne veux pas distinguer les gens. Il y a des gens qui sont plus beaux que d'autres, mais je la prends telle que comme un tout.
Εδώ έχω την αίσθηση ότι πρέπει... Να έχεις τη δύναμη να μπορείς να ακούσεις την αναπνοή σου.
Ici, tu te rends compte qu'il faut que tu aies la force d'entendre ta propre respiration, tes battements de cœur. Et ça, c'est quelque chose qui retient très fort certaines personnes ici et qui chasse d'autres qui ne le supportent pas. C'est cette relation profonde au monde et à la nature.
Alors José Manuel Lamarque, avant de repartir, de reboucler sur le mont Olympe, pour bien comprendre quelques clés de cette Grèce et de la Thessalie, il y a une structure familiale qui est extrêmement forte, ce qui fait que la pauvreté n'est pas toujours visible. Ça tient énormément avec la famille. Il y a l'orthodoxie, il y a le temps qui ne compte pas. Et puis, ça c'est encore autre chose, il y a, je dirais, un passage qui a été fait directement de la Grèce antique à aujourd'hui sans passer par la case Renaissance.
Oui, bien sûr, puisque 1453, la chute de Constantinople, 1830, l'indépendance de la Grèce, automatiquement, la Grèce n'a pas connu la Renaissance, n'a pas connu ce grand mouvement que nous avons connu à l'ouest, du côté de l'Empire romain d'Occident.
Et ce que je vous propose, donc, je vous l'avais dit, on a débuté par le mont Olympe, nous poursuivons, nous terminons, et là on avait rencontré un homme qui s'appelle Christos. Je n'ai pas son nom de famille, je sais qu'il est prof parce qu'on l'a rencontré à la descente et on lui a demandé pourquoi les dieux se sentaient bien ici.
Αλλά πώς, σκέφτομαι ότι η ορειβασία στην Ελλάδα μάλλον ξεκίνησε εδώ.
Je pense aux dieux, parce que les dieux amenaient en fait les anciens à construire des temples sur presque toutes les Crêtes. Et ils venaient en pèlerinage depuis Zion, qui est de l'autre côté, et Pythion, qui est sur notre côté ici. Et ils montaient sur ces temples, et on retrouve des sentiers des anciens.
D'accord. Alors pourquoi les dieux se sentent bien ici? Pourquoi ils ont élu domicile ici?
Parce que c'est une montagne qui est isolée des chaînes de montagnes de tout le reste de la Grèce. C'est-à-dire toutes les montagnes en Grèce, il y en a beaucoup. Elles sont sous forme de longues chaînes. Et cette montagne-là, elle est sortie toute seule. Et c'est entre deux plaques tectoniques. Et donc ça a beaucoup impressionné les anciens. C'est ça qui leur faisait un peu peur, quoi, cette unicité. C'est une montagne qui n'est pas saine au niveau roche. Et donc, elle a eu énormément de glissements après l'ère glaciaire. Elle a eu beaucoup de glissements de terrain, beaucoup de coulées de boue, de roulements de cailloux. Et donc, les anciens entendaient ces cailloux qui roulaient et ça leur faisait penser aux dieux, ça leur faisait peur. Quoi. C'était quelque chose qui... Il y avait le bruit de la montagne, si tu veux. C'était unique, ça.
Ouais. Alors on peut imaginer, en fait, on voit différents théâtres, différents lieux. Chacun avait le sien, chacun était habité par un dieu différent, ils se réunissaient.
Si on était arrivé par l'autre face, on serait en face de la crête de Stéphane. Stéphane, ça veut dire la couronne. Et cette crête-là se présente comme le dossier d'un énorme trône. Et donc, ils pensaient que c'était là qu'étaient tous les dieux. C'était le trône de Zeus et tous ses enfants. Personne ne montait jamais, parce que c'était le lieu des dieux.
Montagne, mer, montagne, le Mont Olympe. Un grand merci à vous, José Manuel Lamarque, d'avoir été avec nous. Vraiment, on vous retrouve tous les jours. Je crois qu'on a intérêt à le podcaster donc à 5h10 du matin.
Avec Emmanuel Moreau.
Avec Emmanuel Moreau à 5h10.
Avant qu'on se quitte, Denis, je voulais dire là, la Grèce souffle, la Grèce est pauvre, ils sont pauvres, mais ils sont solidaires. Et surtout, allez tous passer vos vacances en Grèce cet été, mais s'il vous plaît. Allez-y en respectant la Grèce et les Grecs.
Merci Isabelle Bouchy, merci à Pierre Spirito du département de la Lozère, à Irini Caralari-Otou, la vice-présidente de la région de Thessalie. Nous parlerons des océans la semaine prochaine. Merci à Christophe Imbert qui a réalisé l'émission et à Sonia Leglen, notre assistante. Vivre avec les bêtes, ce sera dimanche à 15h.